trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est avec nous, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain.
Bonsoir Grégoire.
Louis De Fels nous accompagne également, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là et merci à Florian Yelpo de nous accompagner également. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Vous êtes responsable macro chez Lombard Odier IM. C'est peut-être un des adages boursiers les plus connus au monde, sell in May and go away. Je crois que l'idée c'est de revenir un peu plus tard, septembre, octobre, nous dit l'adage boursier. Pourquoi est-ce que ce mois de mai est un peu différent visiblement, en tout cas sur les 15 premiers jours, il fallait être plutôt acheteur de risque, acheteur d'actions sur le mois de mai. Pourquoi est-ce qu'il y a ce buy in May qui semble se profiler en 2024 aujourd'hui, Florian ?
Moi, c'est avant tout une séquence. C'est-à-dire qu'on a eu un premier trimestre, vous en avez beaucoup déjà parlé à cette antenne, où on a eu un remarquable alignement entre la micro et la macro. Pour une fois, les gens qui font du top-down et du bottom-up arrivent à se parler et dire la même chose, c'est mieux qu'attendu, c'est mieux que prévu. Voilà, on parlait précédemment de la fantastique saison des résultats qu'on a pu avoir, surtout outre-Atlantique. À la fin de ce mieux micro-macro, on s'est retrouvé face à une situation où on s'est dit peut-être ça va un petit peu trop bien. Et puis nos banquiers centraux ont commencé à dire peut-être que ça va un peu trop bien et peut-être qu'on est peut-être plus en mesure de délivrer autant de baisses de taux que prévu. Et là, on a commencé à avoir un petit peu des montées d'anxiété de la Fed.
Ça, c'est ce qu'on a vu au mois d'avril, hein, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Ouais, ouais. Ce qu'on observe plus récemment, on a commencé à en parler hors plateau, c'est qu'on observe en ce moment une forme de stabilisation, un tassement de l'activité économique. C'est-à-dire que, et c'est une bonne nouvelle. C'est ça qui est fantastique, c'est que jusqu'à présent, on a eu une vaste majorité d'indicateurs en progression. On voyait ça partout aux États-Unis, même en Europe. Europe, dont on a beaucoup parlé de la terrible récession allemande des moins 0,3%. Aujourd'hui, on a à peu près 60% des données économiques qui sortent, qui sont en baisse, et en plus, qui déçoivent les attentes. Donc on a des indices de surprise aux États-Unis qui sont maintenant négatifs. Alors il y a plein d'indices de surprise différents, mais les indices City, qui sont les plus suivis, eux, sont dans le territoire négatif pour la première fois depuis début janvier, et ça le marché apprécie. C'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une bonne nouvelle parce que ce ralentissement de la croissance présage aussi d'une stabilisation des taux, et cette stabilisation des taux présage d'une poursuite de la narration du soft landing, voire du no landing, si cela était possible.
À ce stade, cette dégradation ou cette détente ou cette décélération de l'activité américaine n'est pas trop forte pour ne pas générer une angoisse qui serait peut-être légitime. Hein. Si on voyait l'activité s'effondrer, malgré des banques centrales, j'imagine, prêtes à intervenir, ça pourrait être un moment douloureux pour les actifs risqués. On n'est pas à ce moment-là encore, Florian.
Alors, c'est difficile à dire, évidemment, mais pour l'instant, non, mais... en tout cas, on ne semble pas y être. Quand on regarde la majorité des indicateurs qu'on peut collecter aujourd'hui, on est toujours dans cette espèce de petit top trend qu'on voit depuis novembre dernier dans la macro US. On voit la même chose dans la macro chinoise, et encore en décalage, on voit la même chose dans la macro européenne. Il y a un poisson pilote, ça reste comme les États-Unis, et puis ça cascade, disons, de zone en zone. Tant qu'on n'aura pas une majorité de zones qui sont ensemble en train de décélérer très fort, pas de raison fondamentale d'être inquiet. Et l'un des meilleurs marqueurs de ça, c'est la stabilisation des prix du pétrole. C'est-à-dire que si on a une majorité de zones qui sont en train de s'effondrer, dans l'ensemble, la demande prend la main sur le marché du pétrole. On voit un effondrement des prix du pétrole. C'est le meilleur indicateur de nos castings de marché qu'on peut trouver. On n'est pas encore là. On n'est pas encore à ce stade.
Ouais, je comprends. Il n'y a pas de synchronisation. C'est plutôt un décalage de cycle aujourd'hui qu'une synchronisation, effectivement, autour du ralentissement américain. Quoi.
Un heureux décalage de cycle.
Ouais.
On le voit aussi dans les earnings. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a sanctionné la progression plus forte qu'attendue. En Europe, on a sanctionné le fait qu'on ait enfin atteint un bottom et qu'on soit en train de former une forme de reprise. Et ce décalage US, Chine, Europe, en fait, il sert en ce moment le monde de l'investissement remarquablement.
Ouais. C'est un guide, là,
c'est
pour
un
vous.
Guide. Ah ouais.
Sanction positive, hein, j'entends, effectivement. Hein. Les résultats ont été sanctionnés positivement aux États-Unis et l'Europe, le point bas, est passé. Ce buy-in May, qu'est-ce qu'il vous inspire, Louis, et qu'est-ce qu'on observe peut-être de différent? Parce que on a quand même un rallye conséquent qui a commencé en fin d'année dernière, sur les deux derniers mois, novembre-décembre, qui s'est prolongé au moins jusqu'au mois de mars 2024. Il y a eu ce petit creux en avril et ça semble repartir. Avec quel type de moteur ça repart?
Le petit creux qu'on a vu en avril, je pense que c'était la désynchronisation entre les banquiers centraux. Rappelez-vous, c'est qu'en avril, on s'est dit « Ah zut, il n'y aura pas de baisse de taux en 2024 aux États-Unis », alors que dans tous les autres pays, notamment l'Angleterre et la BCE, c'était pour juin ou cet été. Mmh. Et je pense que les derniers chiffres macroéconomiques, il y a deux semaines, qui étaient un peu inférieurs aux attentes, à savoir des créations d'emplois un peu inférieures, un taux du chômage qui reprenait qu'un petit bip de 3,8 à 3,9. Voilà, c'est pas grand-chose, comme vous dites très justement tout à l'heure, c'est un peu petit ralentissement des États-Unis qui vient se recaler sur la croissance mondiale. Et en fait, il y a une corrélation
ouais.
Des banquiers centraux. Et ça, c'est le marché a vraiment apprécié.
La divergence sera peut-être moins forte que ce qu'on imaginait il y a encore 3 ou 4 semaines entre la Fed et le reste du monde.
Exactement. Donc c'est vrai que ce qui est très bien, c'est la croissance des États-Unis ralentit un petit peu. Donc on va voir cette semaine avec les chiffres clés de l'inflation. C'est vrai que les 3 derniers chiffres de l'inflation avaient surpris positivement au-dessus des attentes. Là, on peut penser que ça sera un peu en dessous. On attend plus 0,3 mois sur mois, comme on était plutôt à plus 0,4. Donc voilà, ça revient les États-Unis qui étaient peut-être un peu en surchauffe, se recalment et se remet sur une Europe, comme je disais tout à l'heure, qui est en réaccélération. Même la Chine va un peu mieux.
Ah oui.
UBS parlait ce matin de 3,1% de croissance au niveau mondial. Voilà, et on sent que ça repart. Et surtout, ce qui est très important, c'est que pour la première fois, la microéconomie va pouvoir reprendre le relais. On en a parlé très souvent avec des très bonnes publications du premier trimestre et qui devraient accélérer normalement tout au long de l'année.
Hmm.
Donc, ce qui est plutôt est très positif pour la classe d'actifs actions.
On reviendra un peu sur les détails de cette saison de publication, ce que vous en retenez, mais pour finir le tour de table sur l'ambiance de marché, cette atmosphère du mois de mai qui est plutôt positive, favorable, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Alain? Et est-ce que c'est le démarrage, je ne sais pas, d'un nouveau schéma de marché peut-être devant nous là?
Disons que les multiples de valorisation des entreprises étant relativement raisonnables, les résultats étant tout à fait corrects, même en Europe, hein, en dépit d'une conjoncture à taux, non, en théorie, hein, les entreprises se portent bien. Donc le marché, ce qu'il attend, c'est la baisse des taux. Et c'est pour ça qu'il s'est envolé en fin d'année dernière. Et puis on a vu que finalement les États-Unis étaient quand même un peu trop robustes au goût de chacun, donc ça a repoussé les espoirs de baisse de taux. Et puis finalement, comme vient de le dire Louis, on craignait que les États-Unis soient trop tard, et là, ils sont en train de... Bon, peut-être pas en juin, en tout cas, la BCE, en juin, c'est quasi certain, et les États-Unis, ça sera finalement non pas si longtemps non plus.
Ouais, c'est ça.
Donc le narratif baisse des taux, il revient, et il est très puissant, à mon avis.
On était en train de parler d'un possible mouvement à la hausse,
oui, alors ça...
pour la Fed. Non, mais ouais. Pour dire l'exacerbation, jusqu'où on est allé ouais. Dans l'exacerbation de cette,
alors, là,
de cette, ce narratif.
Hein. C'était le
oui, bon bien
point
sûr.
Du discours,
bien sûr.
Le chiffre. Pré-Powell n'était pas très rassurant.
Et le marché guettait quel banquier central voilà. Va nous dire qu'il pense que...
Voilà. Et il avait un discours qui était assez constructif sur une potentielle baisse, que les chiffres qui sont arrivés depuis, donc dans les derniers jours, étaient plutôt dans ce sens-là. Donc le narratif est positif, puisque, a priori, il n'y a pas d'obstacle majeur à la baisse des taux. L'économie résiste. Alors elle va peut-être ralentir un peu aux États-Unis. Elle aurait dû le faire depuis longtemps, mais elle restera quand même supérieure à ce que nous, on est ici.
Ça.
Ici, on est au plus bas, mais l'idée, c'est que ça va plutôt s'améliorer. En Chine, on ne sait pas très bien, mais ça a l'air quand même de s'améliorer aussi. Donc au global, je ne sais pas si on peut parler d'un soft landing, mais on devrait avoir une baisse des taux dans une économie qui sera résistante, voire pour l'Europe, en relative amélioration. Ce n'est pas difficile, vu de là où on part. Donc ça, tout ça, c'est très favorable en soi, parce qu'on a une conjonction de planètes qui fait que, bon, à très très court terme, je ne suis pas certain que l'inflation qui va être publiée aux États-Unis cette semaine va être... évidente,
ouais.
Pourrait être un petit peu
ouais.
Mauvaise malgré tout, mais ça peut faire un ou deux jours difficiles, mais globalement le mouvement est là, c'est-à-dire que les baisses de taux auront lieu, et si elles ont lieu, compte tenu de valorisations qui ne sont pas très, les multiples ne sont pas extravagants, c'est bon pour les marchés.
Ouais. Sur l'inflation américaine, effectivement, est-ce que c'est encore un obstacle pour la Fed, Florian? Si on voit le marché du travail se détendre un peu sur un rapport, est-ce que c'est suffisant pour donner ou apporter ce dernier kilomètre de confiance que recherchent les banquiers centraux américains? Ou est-ce que ce n'est pas évident encore?
Moi, j'aime bien l'idée de l'alignement de planètes. C'est qu'il y a deux planètes à aligner. Il y a la planète inflation et la planète emploi. Côté outre-Atlantique, évidemment, d'un côté, la problématique est différente. Côté inflation, on sera capable d'accepter un peu plus d'inflation. Encore un petit mauvais moment à passer aussi longtemps que le marché de l'emploi américain continue à donner des signes de normalisation, de stabilisation. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à... C'est ça, ce sont les marqueurs dont Powell a besoin pour... nous bercer suffisamment pour qu'on oublie l'éventualité d'une hausse de taux. Si le marché de l'emploi reprenait des forces, des poils de la bête,
ouais.
Des forces, la situation serait vraiment très,
là,
très, très
là, il y aurait une forme d'impatience qui pourrait se manifester du côté de la Fed.
Ah, ouais. La courbe de Philips, c'est difficile d'aller contre.
Si on
reste à des niveaux de plein emploi tels qu'on les a aujourd'hui aux États-Unis, au final, les salaires vont progresser, et les salaires progressant, l'inflation va devenir auto-entretenue. Là-dessus, c'est un peu textbook économique. Et c'est le danger auquel on est confronté. Le dernier meeting de la Fed, on nous a dit, ça n'est pas le cas, Rassurez-vous, on ne songe pas à monter les taux. Pourquoi ? Parce que alignement de planète, marché de l'emploi qui ralentit et inflation qui est encore là.
Mais... Et donc il y a une forme d'asymétrie dans la fonction de réaction de la Fed aujourd'hui ? Elle sera beaucoup plus réactive pour baisser les taux qu'elle ne le serait pour ou continuer de les maintenir, voire imaginer les relever d'un cran supplémentaire.
Oui, clairement.
Ouais.
Même s'il y avait force du marché de l'emploi, imaginons qu'il y ait encore une ou deux hausses de taux, on imagine que ce nombre de hausses de taux serait relativement limité. Au contraire, s'il y a vraiment un dérapage de croissance qu'on n'a pas vu deuxième partie de l'année catastrophique, alors là, il va y avoir ajustement de la politique monétaire ultra rapide. Et là, le pivot, le réel pivot de la Fed sera bearish. Il sera plus du tout bullish.
C'est ça.
Ce sera une vraie raison de s'éloigner des marchés actions pour aller chercher.
Ce serait bad news is bad news.
Bad news is bad news, exactement.
Ouais, mais c'est pas ça.
Pour l'instant, on n'est pas encore dans ce créneau-là et on essaie de nous piloter justement ce soft landing au travers de ces deux éléments, de ces deux planètes à aligner progressivement. Attention quand même, mercredi.
Alors
dans l'ensemble.
Surprise à la hausse ou à la baisse
Moi, je suis du côté contestataire, donc je vais être contestataire. Ce qu'on imagine depuis les 3-4 dernières publications, c'est qu'on est en train de passer d'une désinflation linéaire, qui nous a beaucoup, beaucoup plu, et qui a servi aussi le discours de la Fed, à une désinflation plus chaotique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire que l'inflation va remonter à 8-9% dans les deux années à venir. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que aujourd'hui, avec la progression des prix des matières premières, avec les différentes négociations salariales, les effets de ce formidable premier trimestre qu'on a eu, on est très content d'avoir eu beaucoup de croissance, mais il faut aussi se rendre compte que ça vient avec quelques défauts. On peut avoir un deuxième, voire troisième trimestre, un peu plus douloureux en termes d'inflation. Alors, 0,3 core, 0,4 headline de la progression des prix attendus, ça semble déjà relativement ambitieux, relativement élevé. Mais attention, la mauvaise surprise serait plutôt négative pour les obligations, mais plutôt positive pour les actions. Ne l'oublions pas, à cause de cet alignement de planète.
On l'expliquait dans l'émission, un des grands facteurs qui a permis aussi la désinflation immaculée aux États-Unis, c'est la réparation des chaînes de valeur, de l'offre, et notamment de l'offre sur le marché du travail grâce à l'immigration. Les millions d'immigrés qui ont pu venir sur le marché du travail américain, truc tout bête, il faut qu'ils se logent. Et avant d'être propriétaire, il faut qu'ils prennent des appartements en location. Et donc, on a une résistance, notamment du prix des loyers, qui est la composante un peu clé aujourd'hui, cœur dans le CPI américain.
Oui, et si on s'éloigne de la composante...
La contrepartie, c'est ça, voilà.
Et juste pour terminer, si on s'éloigne de la composante purement US, un autre élément qui explique cette désinflation immaculée, c'est aussi le fait que les prix ont plutôt tendance à être globaux, alors que la croissance est locale. Et cette tendance globale à la désinflation, tout le monde en a profité.
Ouais.
Ça, c'est peut-être plutôt derrière nous.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est toujours le consensus. On l'a un peu dit tout à l'heure. En avril, on pensait même qu'il allait y avoir une hausse de taux. Rappelez-vous, on s'est fait peur. Les taux sont à 4,70. On s'est dit, oh là là, si les taux remontent à 5%, qu'est-ce qui va se passer ? L'equity prime de risque va être catastrophique. Le Nasdaq va reperdre 20%. Ça y est, on ressortit les gros chiffres. On a une autre 5% de baisse, qui est une baisse totalement classique dans un marché qui est plutôt assez sain. Mais voilà, quand il dit tout à l'heure, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réaction des taux. Parce qu'on est à 4,70, donc il y avait quasiment entre 220 et 230 points d'écart entre le taux 10 ans allemand et le taux 10 ans allemand. Donc 4,70 et on était à 2,50. La courbe américaine du 2 ans à 10 ans s'est recalée de quasiment 30 à 40 points de base, sachant que la courbe européenne n'a pas bougé d'un iota. Ouais. Comme par hasard, ce matin, on était sous les 200 points de base. Et qu'est-ce qui fait ? Comme par magie, qu'est-ce qui se passe ? L'euro remonte, et on est remonté à 1,08. Donc c'est assez classique. Donc c'est plutôt assez rassurant. Concernant l'inflation, nous on est plutôt, bon, on n'est pas économiste, mais on pense que ça devrait, après 3 mauvaises nouvelles, je pense que le marché devrait bien la prendre. Mais la vraie date qu'on regarde beaucoup, c'est en Europe, vous savez, pour la BCE, c'est le 23 mai, ça va être la publication des salaires pour le premier trimestre. Ouais. Donc depuis le T3, c'était quasiment le pic, T4, ça avait ralenti. Là, le 23 mai, ça devrait encore ralentir. Donc normalement, bon, c'est complètement dans le marché, la BCE devrait baisser ses taux, mais ça devrait...
Toutes les planètes s'alignent au fur et à mesure pour la BCE, en tout cas selon les critères qui ont été dictés par la BCE pour une baisse de taux le 6 juin prochain.
Au moment où la croissance européenne remonte, plus 0,3 comme
sur le premier trimestre. Bien sûr. Et si on baisse les taux en juin, on les baisse aussi en juillet ?
Alors, moi, tout dépend.
Quitte à en débattre.
Le vrai débat, c'est trop de baisse de taux n'est pas toujours bon pour le marché. Ce qui est bien, c'est que là, rappelez-vous, ça fait depuis septembre qu'on parle de... quand le président Powell a dit qu'il y avait une baisse des taux, le marché s'emballait, puis il est revenu un peu en arrière. Ce qui est bien, c'est que tant que le marché monte, alors qu'il y a la croissance avec des bénéfices par action, c'est top. Parce que rappelez, il y avait eu ce qu'on appelle le Powell put, c'est que si demain l'économie devrait trop ralentir, il y aurait cette fameuse baisse de taux qui soutiendrait les marchés. Donc pour le moment, si c'est un petit peu décalé ou s'il y a juste une petite baisse de taux symbolique et que puis on peut refaire un statu quo pendant longtemps, nous ça nous va très bien.
Oui, c'est la différence. Hein. Il y a des baisses de taux qui sont une simple recalibration, un recalibrage de la politique monétaire et il y a des baisses de taux en urgence, en soutien d'une économie défaillante. Et on n'est pas dans ce schéma-là aujourd'hui.
Proactif, pas réactif.
Oui, c'est ça.
Ouais. Si on entrait dans un mode réaction, ce serait plus rapide et ça serait un put Fed, mais le marché aurait vite souffert.
Mais c'est deux puts de nature différente. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la saison de publication, Alain, puisqu'on arrive quasiment au terme? Dans les grands secteurs que vous suivez, les grandes thématiques, côté consommation, industrie, etc. Qu'est-ce que vous
déjà,
en retenez?
Déjà, globalement, les résultats étaient quand même assez bons. Hein, il faut
en Europe,
dire,
notamment
en
aussi.
Même en Europe.
Même en Europe, c'est ça, oui.
Alors, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui sont internationales, etc., mais c'était quand même plutôt pas mal.
Je crois qu'aux US, on attendait moins 3 sur la séquence, on finit peut-être à plus 5, c'est ça?
Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Les boîtes n'ont pas été si... Alors, elles restent toujours évasives sur l'avenir, mais elles n'ont pas été particulièrement prudente. Alors, dans certains cas, il y avait un bon T1 et on ne changeait pas l'objectif de l'année, ce qui prouve qu'elle reste prudente. Mais dans l'ensemble, le discours était plutôt constructif. Il n'y avait aucune alerte particulière. Alors, on parle beaucoup des cycliques qui pourraient rebondir, mais je note quand même que, en gros, hein, là où, quand on fait des machines-outils, quand on vend des équipements CAPEX industriels, là, on sent que c'est dur. Hein. C'est pas terrible. Hein. Ouais. Là, il y avait des warnings. C'est vraiment les seuls secteurs où... Dans le bon vieil industriel, capital goods, mais pas type Schneider, hein, qui sont dans la transition énergétique, mais quand on fournit des machines-outils, etc., on sent que le monde des entreprises est un petit peu prudent. Et dans la chimie aussi, on sent que c'est compliqué. Dans la vieille old industry, c'est pas facile. La consommation, ça reste un peu entre deux eaux, notamment la consommation durable. On sent que le consommateur, il a eu, certes, l'inflation baisse, mais on sent qu'il fait encore attention, aux États-Unis notamment aussi. Hein. Là où ça va bien, c'est dans tout ce qui est les banques, c'était quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Les assurances, c'était pas mal non plus. Tout ce qui est lié au cycle d'investissement, type des sociétés comme Schneider ou autres, ça reste très solide. Hein. Il y a un petit ralentissement en Chine sur une toute petite activité, mais dans l'ensemble, les méga-trends sont à l'œuvre. On sent un petit peu de prudence aussi dans les ESN.
Service numérique.
Mais là encore, les Capgemini, tout ça, on sent que ça ralentit, mais c'est plus une petite prudence, et c'est quelque chose qui peut repartir très vite, a priori. Enfin, très vite. Pas en un trimestre, mais on sent que rien n'est... Il n'y a pas de crash, a priori. Donc, dans l'ensemble, quand même, je dirais, les tendances de fond sont toujours là. Et globalement, moi, je suis plutôt constructif, hein, on va dire. En revanche, la question qui peut se poser maintenant, c'est si on va vers un mode baisse des taux, avec une sorte de nouvel enthousiasme général... Est-ce qu'on aura un rallye, entre guillemets, cyclique ou des boîtes un peu délaissées?
C'est ce qu'on semble voir poindre quand même sur ces dernières séances, ces dernières semaines.
Les stars de la cote, est-ce qu'elles ne vont pas être un petit peu... Alors, je ne vais pas forcément baisser, mais est-ce qu'il n'y aura pas un rattrapage des moins bons? C'est la question. Je pense qu'il faut être relativement sélectif, parce que je ne pense pas que ça sera aussi basique que ça.
Un rallye cyclique, oui, d'accord. Il faut se méfier de l'idée d'un rallye cyclique général.
Bon, l'idée que les stars ont bien brillé et qu'il est peut-être temps de regarder un peu au-delà, ça, je suis d'accord. Maintenant, dans le au-delà, ça va pas forcément... Il y aura quand même des... Ça va être un rallye global.
Ouais, je comprends. Qu'est-ce que vous retenez de ces publications de résultats, notamment en Europe, Louis, pour les secteurs et les entreprises que vous suivez de près?
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut parler aussi de la conso ou de la logistique. Ouais. On a vu que le T1 était encore un peu mou, notamment en termes de volume, c'est dans la logistique, ce qui compte, ce n'est pas le prix, hein, c'est les volumes transportés. Et on sent que ça y est, le T1, c'était peut-être point bas. Il faut rappeler que depuis la guerre en Russie, les volumes ne font que de baisser depuis 2 ans. Ça a été compensé par les prix. Mais maintenant, comme il y a plutôt la désinflation dans les prix, pour la première fois, vous allez voir les sociétés de consommation qui vont repartir en volume. Et ça, c'est plutôt bien pour la logistique. Donc voilà, on revient assez confiant dessus. On parlait des ESN, il faut se rappeler que ça fait déjà, maintenant, ça va faire 4 trimestres de suite qu'on a entendu que ça décroît. Donc le T2, c'est le dernier effet de base compliqué, après ça devrait accélérer. Dans l'ensemble, c'est plutôt assez bon. Mais c'est vrai que si on regarde dans sa globalité, Dans toutes les publications, notamment sur les small caps, il faut savoir que les analystes, pour la première fois depuis 5 trimestres, ont révisé à la hausse, les bénéfices par action, et il y a eu 3 fois plus de révisions à la hausse de target price que de baisse de target price. Donc ce qui est assez intéressant, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Il faut savoir aussi, quand on regarde les différents indices, c'est qu'est-ce qui fait qu'un bull market repart dans les large caps, on y est, c'est la participation haussière, combien il y a d'os de titres qui sont au-dessus des moyennes mobiles, et depuis très longtemps on l'est sur les large caps. Ça, c'est pour ça que même la baisse d'avril n'a absolument pas entaché le bull market. Et pour la première fois depuis longtemps, on commence à voir ça sur les small caps. Je crois qu'il y a 54% des valeurs dans les indices small qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, ce qui était quasiment jamais arrivé, ce qui est un indicateur favorable pour continuer ce bull market. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, vous savez que les attentes des analystes sont assez hautes pour les large caps, mais elles sont tout aussi, même plus hautes pour les small, avec des niveaux de valorisation bien inférieurs. Je pense que les small caps américaines, on est autour de 15,7 fois le PE, ce qui est quasiment plus de 30% de décote par rapport au S&P. On sait que certes, il n'y a pas l'intelligence artificielle, etc. Oui. Mais dans pas mal de valeurs small caps, il y a la dérivée seconde de l'intelligence artificielle qui est l'électrification. Tu parlais tout à l'heure de Schneider Electric, mais il y a beaucoup de très belles valeurs small cap dans lesquelles vous pouvez jouer cette thématique d'électrification qui est vrai, qui est en plein boom.
Et donc là, il y a quand même un alignement de planètes. Ça fait des mois qu'on parle avec vous, small capper, spécialiste small capper, Louis et Alain, mais ça fait des mois qu'on en parle. Là, il y a quand même des facteurs techniques, des facteurs fondamentaux de valorisation qui justifient vraiment ce qu'on observe déjà sur quelques semaines, Louis. C'est-à-dire l'idée d'un rattrapage après des années de sous-performance pour les small caps françaises, voire européennes.
C'est vrai qu'il y a deux grandes années de sous-performance. Après, pour mettre les choses dans le contexte, et peut-être nous, small cappers, qui vision un peu trop avec nos lunettes roses.
Oui,
mais c'est normal un peu qu'elles aient sous-performé depuis 2 ans, parce que, un, hausse des taux classiques, mais surtout, il n'y avait pas les thématiques intelligence artificielle, obésité.
Et la dynamique des résultats n'était pas là.
Et surtout, la dynamique des résultats n'était pas là. Et surtout, il n'y avait pas eu de re-rating, parce que je vous rappelle que les marchés large cap depuis octobre, ça s'est fait sur le re-rating des multiples et pas par les earnings. Donc là, voilà, les small cap, elles sont au fond du trou. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on ne regarde que les multiples de valorisation, donc liés au PNL, donc au compte de résultats. Il faut savoir que quasiment au plus bas, là, d'octobre l'année dernière, le price to book, donc les ratios de fonds propres des small cap, étaient tombés au même niveau que mars 2020 et pas loin que 2011-2012, quasiment au même niveau. Voilà, tout ça, donc, parce que le marché est tellement momentum, donc aujourd'hui, les sociétés tombaient quasiment à 1,10 fois les fonds propres. Donc 1,10 fois les fonds propres, sachant qu'il y a quasiment très peu de sociétés deep value ou value dans les small cap, comme les bancaires, les pétrolières, qui se paient sous les fonds propres. Donc c'était pour vous dire à quel point les small cap avaient été délaissés. Pour le moment, clairement, le point bas, c'est le premier trimestre. Beaucoup, même, qui ont un peu déçu sur le terrain, mais qui ont dit le point bas, c'est là, et sont repartis. Ça a plutôt bien réagi. C'était la même chose sur les large cap avec ST Micro, Infineon, qui, pareil, avait sorti des terrains pas bons. Ils ont dit que ça allait mieux. Voilà, ça a réagi.
Ça n'a pas baissé.
Ça n'a pas baissé, non, ça m'a monté.
Et
normalement, on devrait avoir une accélération de la croissance des bénéfices par action. Donc pour l'instant, le marché ne paye pas encore. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas encore le retour des flux. Mais vous savez comment ça se passe. Je pense que les gens vont attendre que ça revienne. Et l'accélération des flux, je pense qu'elle arrivera que, malheureusement pour nous, dans la deuxième partie de l'année.
Sur ce rattrapage.
Sur les small caps, ça fait déjà à peu près 6 mois que les stratégistes commencent à dire qu'il y a une énorme décote.
Oui. Que c'est un risque de ne pas en avoir.
Globalement, les valorisations, normalement, les small caps, d'habitude, ont des croissances de résultats qui sont supérieures aux large caps et des multiples qui sont également légèrement supérieures, mais au final, la croissance l'emporte et donc ça fait mieux. Mais on a des croissances de résultats qui ont un petit peu fléchi, qui n'étaient pas tellement meilleures que les large caps, mais ça pourrait changer, surtout s'il y a une accélération de l'économie, et des multiples de valorisation qui, au lieu d'être avec une prime, sont devenus au même niveau, voire maintenant avec une décote, ce qui est tout à fait inhabituel. Donc, en top-down, c'est clair, les small caps ne sont pas chers. Mais aux États-Unis, rappelons-nous, même le Russell 2000, jusqu'à il y a un mois, il était en baisse.
Bien sûr.
Donc, ce n'est pas que européen. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de flux, on voit des flux qui arrivent, mais aujourd'hui, c'est plutôt top-down quand même. On dit qu'il faudrait avoir des small caps.
D'accord. C'est des allocataires qui viennent chercher une brique.
Donc, ça arrive plutôt sur les ETF. Donc, ça bénéficie d'abord au mid et pas encore vraiment au small. Moi, dans les fonds vraiment micro small cap, il y a encore des boîtes où c'est pas cher du tout et il n'y a pas de flux. Ouais. Donc les flux vont finir par arriver, mais ils arrivent d'abord par le haut et ça descend progressivement.
Sur l'échelle du risque, il y a un chemin, il y a une progressivité à respecter.
Pour le cap, on a 6 points d'écart entre l'un et l'autre. Ouais. Donc les mid-cap ont déjà commencé à bénéficier de la vague. Les small, pour l'instant, Ça va arriver, mais ça prend encore un peu de temps.
Ce rattrapage, alors des small versus large, mais on peut regarder aussi d'autres types de segments de marché retardataires, comme on dit, Florian. Voir un rattrapage de ces retardataires, ce serait cohérent dans l'environnement macro qu'on a décrit avec vous
Oui, assez bien. Je pense que la grande différence entre l'an passé et cette année, c'est que l'an passé, c'était du ou-ou, et cette année, ça peut être du et-et. C'est-à-dire que l'an passé, on avait de la peine à se dire il y a autre chose que les US large tech, que tout le reste ne servait pas grand-chose dans nos portefeuilles. Et pendant deux années, c'était extrêmement frustrant. Vos choix de sélection, en fait, faisaient votre performance multi-asset. Cette année, la situation est très différente. Au close de vendredi, le Nasdaq faisait la même perf que le MSCI World. Alors, on est loin des small, mais en tout cas, on est dans des styles...
Mais il n'y a plus 20 points d'écart, quoi.
Exactement. Ouais. Exactement, il n'y a plus 20 points d'écart. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a de bonnes raisons qu'on ait une poursuite du rallye des larges. L'une de ces raisons assez essentielles, c'est qu'elles ont fait un grand travail de nettoyage en termes de marge. Elles ont largement amélioré leur marge, comme si elles avaient connu une récession, alors qu'elles n'ont pas vu de contraction de la demande. Lorsqu'on regarde d'un point de vue très agrégé, hein, je suis navré de ne pas regarder boîte par boîte, mais d'un point de vue très agrégé, les ventes n'ont pas fléchi, ou très peu, en tout cas, ne sont pas demi-négatives, comme dans une récession. Mais par contre, les marges, elles ont fait le pattern cyclique. Donc, elles se sont largement améliorées. Leur productivité est très forte. Et du coup, elles sont prêtes à servir une demande qui est en train de reprendre. Et cette demande qui est en train de reprendre, elle va aussi servir le case des mid, des small, des émergents, de l'Europe, de ce qui a été un petit peu délaissé l'an passé. Le dernier ingrédient, c'est que, je vous l'ai déjà dit à cette antenne, mais c'est la phrase est toute bête, c'est de dire ce qui a souffert quand les taux étaient élevés et l'inflation a été forte, lorsque l'inflation va se modérer et que les taux vont baisser, ça devrait faire mieux. Et c'est justement tout ce qui gravite à l'extérieur de ce complexe US-centrique, large-centrique et tech-centrique. Donc pour nous, il y a un vrai case à être diversifié aujourd'hui en actions, et vos choix de sélection seront bien moins importants qu'ils ne l'ont été au cours des deux dernières années. Ce qui est, d'un point de vue d'allocateur d'actifs, caisse de pension... ça reste très bonne nouvelle.
C'est beaucoup plus confortable. Effectivement, la diversification paye enfin. Il y a encore quelques mois, sortir des Mag 7, ça payait pas, pour dire des choses.
Au sein des actions.
Au sein des actions, oui, j'entends. Il y a toute la partie cash, crédit, obligations. Sur les small, toujours, ou sur les actions, mais le thème M&F, fusion-acquisition, le thème opération sur capital, introduction en bourse, ça participe à... soutenir ou l'idée que le rattrapage peut être un peu plus conséquent quand même, Louis ?
Oui, non, clairement, on voit clairement que les fonds de private equity, ils ont un dry powder, donc encore combien de cash à investir, qui est juste colossal. Aujourd'hui, je pense qu'ils font le tour de toutes les pop-pots, de toutes les sociétés, et c'est ce qu'on aime bien, nous, dans les small caps, c'est que la plupart des sociétés dans lesquelles on investit sont des sociétés familiales et ou propres deuxième, troisième génération. Donc souvent, elles, en plus avec les nouvelles normes qui sont assez compliquées, vous savez, avec le SSFRD qui va arriver, elles se disent, bon, allez, on peut sortir de bourse, tac, l'argent, même s'il est un peu remonté, c'est faisable. Et ça arrive, malheureusement, c'est avec des primes beaucoup trop faibles encore à notre goût. Et c'est vrai que c'est souvent les plus belles sociétés qui disparaissent. Bon, là, il y a eu Voyageurs du Monde, heureusement, c'était juste une Oprah.
Qui sortent de la cote, enfin, quand on dit qu'ils disparaissent, elles
disparaissent
pas.
Qui sortent
de la bourse, oui, mais c'est le match.
Non, mais c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que dans l'électrification, qu'on parlait tout à l'heure, on a une société, une small cap italienne qui s'appelle Satchef, qui fait l'électrification des rails, qui avait un contrat, qui avait des backlogs de plusieurs années. Malheureusement, elle est sortie avec une prime beaucoup trop faible de 18%. Malheureusement, on ne pouvait pas faire grand-chose, parce que la société avait une structure de capital un peu spécifique, on ne pouvait pas faire grand-chose. Là, on a une autre en Grèce qui s'appelle Epsilon, pareil, donc là, on se bat. Heureusement, il y a un grand fonds américain qui a 8% du capital. Ouais. Donc, c'est comme en Europe, la Grèce, c'est tout. C'est si vous avez 90% du capital, vous pouvez
forcer... C'est obligatoire, retrait obligatoire. D'accord.
Voilà, mais c'est vrai que c'est un
peu... Nous, on a eu Believe chez nous, effectivement, qui finalement va garder une partie capital côté, a priori.
C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire quand on entend M&A dans les small caps, en théorie, c'est une opportunité, mais moi, je vois plutôt... c'est une opportunité qui est un petit peu amère, parce qu'en fait, aujourd'hui, les trucs sont tellement pas chers qu'on comprend très bien que les entreprises souhaitent sortir de la bourse à un prix... Regardez Micropole, par exemple.
Ouais.
Micropole, bon, c'est pas une société extraordinaire, mais il y a une OPA qui est annoncée, ça la met à des multiples, à peu près, on voit que la société Obey, par exemple, a pris un petit ticket pour voir. Mais les multiples de Micropole post-OPA, c'est les multiples d'Obey aujourd'hui. Et Obey, il y a 3 mois, nous disait, on essaie d'acquérir des sociétés, mais ça fait 3 ans que les multiples sont beaucoup trop chers. Et là, c'est en train de s'améliorer, mais les gens vendent encore entre 10 et 12 fois l'EBITDA.
Là,
cette société, au prix proposé par ceux qui veulent la sortir, est à 7 fois, qui est au passage le prix à peu près où cote Obey. Donc, on comprend qu'eux, à leur place, qui regardent, c'est normal.
Bah bien sûr.
Enfin, en fait, le prix des trucs en bourse par rapport à ce que ça vaudrait dans le private equity, je comprends que les familles veulent sortir. Ouais. Elles ont raison. Malheureusement, enfin, Somfy, par exemple, est sorti
l'année dernière. L'écart, c'est pas résorbé. Parce que dans le private equity, j'imagine quand même que les multiples, les multiples, quand même, baissent aussi un peu.
Dans le private equity, ça se tasse, mais quand même, pas la même place. Ouais. Et en revanche, en bourse, ça va très vite.
Ça va plus
vite. C'est pas liquide. Et là, on est sur des valorisations dément. Donc, moi, le M&A, j'ai pas mal de sociétés que dans le portefeuille. Je me dis, si un M&A, c'est super parce que je vais faire 30% et je tiens bon parce que je... Voilà. Mais en même temps, ce n'est pas ce que j'espère vraiment parce que si ça repart, elle pourra aller beaucoup plus loin que les 30% de primes qu'on pourrait proposer.
Bien sûr.
C'est vrai qu'il y a un vrai problème de réallocation du cash, surtout sur les belles valeurs, notamment en France. Parce que le problème, c'est que la plupart des sociétés qui ont été introduites en bourse depuis 4-5 ans, c'était plutôt catastrophique. Mmh. Et c'est vrai qu'on se dit, avec l'argent qu'a le M&A, c'est que très souvent, les belles sociétés se refont private equity sur private equity. Donc on ne les voit pas en bourse. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu quand même des nouvelles belles sociétés en Suisse. Il y a eu Galderma, il y a eu Planisphère, je crois.
Planisphère en France.
Il y a eu Putsch aussi.
Il y a eu Puig en Espagne. Il y a eu quelques opérations un peu emblématiques.
On souffre un peu d'IPO qui n'étaient pas de très bonne qualité. Par exemple, les biotech, aujourd'hui, on a du mal à voir dans les
5-7
dernières années. Oui, bon, il y a Medincell là, qui commence à sortir un petit peu des trucs bien, mais ce n'est pas évident de trouver une success story, alors que de temps en temps, on apprend que là, il y a encore une société qui vient de se vendre pour 1 milliard directement en private equity. On a l'impression que les bonnes, elles n'arrivent pas par la bourse.
On a manqué de succès.
Voilà, mais c'est pour ça quand même, qu'en France, il y a vraiment un travail à faire. Mais heureusement, quand vous allez en Italie, dans le nord de l'Italie, il y a quand même énormément de très très belles sociétés familiales. Vous pouvez aller en Angleterre. Ça y est, l'Angleterre, c'est un vivier de très très belles sociétés qui ont été complètement délaissées de par le Covid. Et surtout, notre Nasdaq à nous, c'est la Suède. La Suède, je crois qu'il y a plus de 1000 ou 2000 valeurs cotées.
Ouais, bon, une cote profonde, large aussi. Bien sûr.
Donc c'est vrai qu'il faut sortir un peu de la France.
Ah oui.
Donc il y a tout un travail à faire. C'est vrai que c'est pas facile. Sur les small caps, faut y aller, il faut se déplacer, mais bon, on est payé pour ça. Donc.
Bien sûr, il y a encore un vrai marché. Non, mais parce qu'à un moment, on se demande s'il n'y a pas presque une remise en cause structurelle de la bourse pour des acteurs du non-coté, etc. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fonctionnement boursier qui fait que, justement, certaines familles se disent que, peut-être que j'aurais pu espérer plus en bourse, mais si la bourse ne fonctionne pas comme avant, autant prendre ce qu'on propose dans le non-coté.
D'une part, mais également la progression de la gestion passive. Ouais. Et donc des ETF qui cherchent, même Euronext avec la gestion des indices, par exemple l'indice CAC Small, on avait l'occasion d'en parler, mais comme ils veulent gagner de l'argent surtout par les ETF qu'ils peuvent faire dessus, le CAC Small a été furieusement nettoyé en septembre dernier d'un certain nombre de valeurs, même des valeurs importantes, de 500 millions, voire de Vetoquinol, 1 milliard de capi. Hop, ils ont dégagé, pas parce que c'était une mauvaise société, mais parce que le titre n'étant pas assez liquide, ils ne pouvaient pas faire... c'est pas un support pour un ETF. Alors, c'est sur les ETF qui gagnent de l'argent en vendant des données, etc. Et du coup, ça balance dans une sorte de marée barométrique un certain nombre de sociétés de très bonne qualité, mais sur lesquelles la liquidité était faible, et ça n'a fait que la détériorer encore. Donc après que les dirigeants familiaux se disent « Mais qu'est-ce que je fais en bourse? À quoi ça sert? Je suis sous-valorisé, mon titre n'est pas liquide. Je peux emprunter. » Alors. Ils se disent aussi que les taux vont baisser prochainement, donc ils peuvent se dire aussi « je pourrais refinancer ma dette ». Donc c'est peut-être le moment, alors que le marché n'y croit plus, de faire une offre et de sortir.
Ouais. C'est ce qu'expliquait Dominique Séolin, le patron d'ABC Arbitrage aussi, là, qui était venu présenter ses résultats il y a quelques semaines. Il y a eu un gros décrochage du titre ABC Arbitrage. Très peu liquide, sauf qu'il se retrouvait dans l'ETF MSCI Small France, avec un poids qui n'était pas du tout la réalité des échanges quotidiens de ABC Arbitrage. Et quand l'ETF a commencé à vendre, ça a décalé très très fort sur le prix et sur le cours de bourse.
C'est les conneries des ETF, d'expression sur les small caps. Il faut savoir que la société
pour défendre les ETF.
Non, c'est ça qu'il y a une OPA de la famille, pareil, avec un fonds sur la société Boiron.
Ouais.
L'OPA n'est pas arrivée à son terme parce que l'offre était quand même trop chiche.
Pas très généreuse.
Très généreuse. Le titre vient de reperdre 15-1%. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore un ETF qui était dedans, qui a dû sortir, et il a dû vendre. Donc aujourd'hui, moi je conseille les gens qui nous écoutent, vous pouvez acheter du Boiron, ça se paye 20% sous la décote.
Et maintenant que l'ETF a liquidé...
L'ETF est liquidé, je crois qu'il...
Techniquement, c'est nettoyé, quoi.
Voilà.
Bon, et puis, sauf accident, d'ici 1 ou 2 ans, ils vont finir par sortir complètement, de toute façon. Donc voilà, mais c'est un peu triste, quoi. Si...
Ah bah...
Le seul espoir, c'est que les boîtes se sortent, parce qu'avec une prime, c'est pas l'idée. Ouais. Et on avait essayé de faire un peu de lobbying aussi.
Et pour que les marchés de capitaux soient un vrai soutien.
Ça ne bouge pas beaucoup.
Non. Dernière chose aussi, ce qui va être intéressant de voir, c'est que il y a une énorme dispersion de performance dans le prêt equity. Ah depuis 10 ans, c'était facile, les taux ont baissé. Quand vous regardez nos fonds small cap, pareil, on a tous des TRI entre 7 et 15% annualisés depuis 10 ans. Voilà, rappelez-vous, en 2012, ça se payait, ou entre 2012 et 2013-2014, ça se payait, on a des très très beaux TRI. Et c'est toujours intéressant de le comparer. Je pense que tous les fonds qui ont été lancés au pic des valorisations en décembre 21, attention de voir les TRI, que ça va être mis. Donc c'est pour ça que je pense que nous, les small cap, on fait bien notre travail. Les frais sont déjà beaucoup plus faibles que dans le private equity. Nos performances sont auditées et on invite à, sur 3-5 ans, à regarder nos TRI annualisés, net de frais.
Non mais comme vous disiez, vous faites parfaitement la recette, il n'y a pas de problème lui. Non mais comme vous disiez, c'est vrai que le private equity à la fois beaucoup de dry powder, il y a beaucoup d'argent effectivement à investir, et dans le même temps, il y a aussi en face beaucoup de clients qui attendent un retour quand même de la part des GPs après plusieurs années d'investissement pour certains.
L'endettement est plus cher, donc, et les multiples d'entrée étant plus élevés, c'est plus compliqué à la sortie.
Ceci étant dit, ce que ça vous inspire, Florian, cette discussion, je voulais bien qu'on dise un mot un peu spécifique de la Chine, parce que Pauline le signalait dans son point bourse en introduction, alors il y a beaucoup d'indices pour mesurer la performance des actions chinoises, mais on a des indices qui ont repris 20-30% depuis les points bas de fin janvier. Maintenant.
Et pas que les larges. Les spoils également font hyper bien depuis mi-février. Là-dessus, il faut être assez clair.
Donc c'est le combo Chine plus small. Là, ça surperforme largement tout le reste. Quoi.
Alors, on a écrit un papier avec un collègue côté equities il n'y a pas très longtemps. En gros, on regarde quel type de demande intérieure a généralement stimulé les reprises, justement, small et mid. Dans l'ensemble, ce n'est pas du tout la consommation américaine, c'est plutôt la consommation européenne. Et si elle se combine à la consommation chinoise qui s'améliore, c'est généralement le bingo gagnant, et on voit justement la progression des smallers être plus forte qu'attendue en tout cas. On croit qu'on est un peu dans ce genre d'environnement-là en ce moment. Le point d'interrogation, il est peut-être pas si fort qu'on ne le pense côté chinois, pour le côté de demande intérieure. Là où la Chine va avoir plus de mal, c'est s'il y a ralentissement, pour revenir aux discussions du début, c'est côté États-Unis, s'il y a un ralentissement, les Chinois sont quand même toujours très exportateurs vers les États-Unis.
Ralentissement plus regain de tension sur le front douanier. C'est un peu le sujet du moment à 6 mois de l'élection présidentielle.
C'est une forme d'inflation,
oui. Oui, c'est une taxe sur le consommateur américain en plus, quoi.
Exactement. Ce double effet-là, il peut peser. Mais il ne faut pas sous-estimer la force du consommateur chinois qui peut contrebalancer ces effets-là. En tout cas, les small et mid chinoises exploitent plutôt cette force-là davantage que les larges.
Donc il y a quand même des forces domestiques dans cette économie chinoise qui peuvent, au-delà du trou noir immobilier, il y a quand même quelque chose en Chine qui peut permettre de justifier un re-rating de ces segments de marché.
Et même sur le trou noir immobilier, on commence à voir en séquence une légère amélioration sur le front des prix. Alors c'est vraiment très 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 embryonnaire, mais au moins on a une forme de stabilisation, si ce n'est d'une mini-amélioration de ce côté-là. Alors inutile d'annoncer une énième fois que ça va aller mieux sur ce front-là, mais en tout cas, la Chine est peut-être moins mal qu'on ne le pense. Les États-Unis ont peut-être moins bien qu'on ne le pense, et le mélange des deux peut servir assez bien le jeu des marchés, plutôt actions, plutôt small, plutôt mid, plutôt les retardataires et les émergents, avec un petit coup de pouce du dollar qui serait un petit peu en baisse parce que les taux seraient un peu plus bas que prévu. Alors on aurait un alignement fantastique de ces fameuses planètes.
Ouais. Bon, on suivra ça. En tout cas, c'est l'inspiration de ce début de mois de mai, effectivement, qui donne l'idée que peut-être que le schéma de marché est en train de changer avec un équilibre toujours Goldilocks, de ce point de vue-là.
Nous, on connaît moins bien chez Gay-Lussac les marchés émergents, mais je me rappelle en début d'année, tout le monde disait la Chine c'est fini, il faut aller sur l'Inde. Je ne sais pas ce que l'Inde a fait depuis le début de l'année. Je sais que ça cartonnait l'Inde l'année dernière. Et comme d'habitude, quand les flux se réinversent, on voit le résultat.
Disons qu'il y en a un qui a 30 fois le résultat et l'autre était à moins.
À l'Inde, c'est cher. Alors, oui, c'est croissance, c'est cher.
Donc, en Chine, les valos étaient quand même très très faibles. Il y a aussi un certain nombre d'investisseurs qui ne veulent plus investir en Chine. C'est un peu comme la défense. C'est-à-dire qu'on ne veut plus investir et puis le jour où ça repart, finalement.
C'est ESG.
Il faut que la défense devienne ESG, oui. L'Inde, le Japon aussi, dit-on, a beaucoup bénéficié d'une note China. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça peut être des mouvements de renversement aussi, si au fur et à mesure, la Chine réattire un peu de flux étrangers? Est-ce que ça peut se faire au détriment d'autres grands marchés, Florian?
Il y a quand même un investisseur qui n'est encore pas convaincu. L'investisseur retail, il est très convaincu qu'il faut aller dans les marchés actions. Il y a un investisseur qui n'est pas convaincu, qui est de ce côté-là de la table. C'est-à-dire que les investisseurs institutionnels aujourd'hui, les caisses de pension, elles ne sont pas du tout à fond sur leurs expositions actions, loin s'en faut.
Parce que quoi, le cash et le crédit restent très confortable en termes de risque-rendement.
C'est même ce qu'on conseille à nos clients, c'est de se dire, côté privé, c'est de dire, si votre horizon d'investissement est suffisamment lointain, vous avez bien meilleur temps d'aller chercher des obligations longues et d'attendre le temps qu'il faudra. Les institutionnels, aujourd'hui, leur bêta au marché action, il est loin d'atteindre les bêtas des investisseurs retail. Et il y a encore cette poche-là d'argent qui n'est pas déployée. C'est du dry powder aussi.
Et c'est ça, exactement. Ouais. C'est un réservoir pour peut-être la poursuite et la suite du mouvement sur les actifs risqués et sur les actions. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florian Yelpo, responsable de la macro chez Lombard Odier IM, Louis De Fels, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, et Alain Dubrulle, directeur de la gestion de Claresco.